on a décidé d'intervenir dans cet ordre-là, vous m'excuserez, je suis enroué. Et on a décidé cet ordre-là parce que on a en fait décidé d'intervenir sur deux points différents. Et je pense essentiellement évoquer les problèmes de guerre et en relation avec le traitement de ces problèmes, y compris l'antisémitisme, ici en Alsace, par les écrits ou le comportement. De mon côté, j'ai décidé en fonction de ce que pouvait appeler le sujet qui nous a été proposé, j'ai décidé de vous discuter avec vous de quelques généralités concernant la manière qu'ont les Alsaciens d'aborder leur passé, qui le gère ce passé, et d'évoquer en somme les déformations, les impostures et les non-dits, en donnant simplement quelques exemples, parce qu'en peu de temps, on ne peut pas évidemment évoquer, mais on peut, dans la discussion alors, évoquer d'autres problèmes que vous voudriez qu'on aborde. Hein. Alors, bon, il y a d'abord une grande idée que je partage depuis très longtemps, c'est ces singularités alsaciennes en matière de politique. J'ai toujours considéré que l'Alsace est restée plus longtemps dans une phase pré-démocratique, bien que les institutions politiques aient déjà été démocratiques il y a bien longtemps, parce que même sous le Reich allemand, il y avait des élections au suffrage universel, même si la démocratie ne fonctionnait pas complètement, mais au moins le suffrage universel existait pour le choix des élus, les candidatures étant libres. Mais en fait, avant 1870, après 1870 et après 1918, et je dirais très longtemps encore après 1945, le gouvernement, l'autorité en Alsace était assurée par des notables. Des notables qui, naturellement, comportaient des nuances, qui se recrutaient par cooptation pour la candidature aux élections. Il n'y a pas de véritable compétition. Au plan électoral, il n'y a pas de clivage véritable, sinon des rivalités entre notables qui pensent grosso modo la même chose. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que la détention du pouvoir par les notables est une chose naturelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas discutable. Ces notables passent pour ne pas faire de politique. Ils sont là parce qu'ils ont été désignés, on ne sait pas trop par qui. C'est naturel. Toutes les personnes qui s'opposent à ce système sont considérées comme faisant de la politique. Seuls font de la politique les opposants. Et je pourrais vous donner un exemple très clair. Il y avait un jour un monsieur de ma maison qui était un soir chez moi et on discutait d'élections municipales. Alors, je dis, ah, vous connaissez M. Trocmé, pas savoir, parce qu'il ne paraissait pas connaître grand-chose. Il dit, ah, c'est celui qui fait de la politique. Donc, lui seul fait de la politique, mais les autres, ils ne la font pas. Alors, autant dire que c'est un peu...
Le professeur Trocmé, la faculté de théologie protestante,
tête de liste et socialiste.
De l'Union des Gauches, oui. De la Union des Gauches, en 1971.
Alors, c'est... Donc, tout ça, c'est illégitime, c'est s'oppose à ce qui est naturel, d'où les difficultés des partis démocratiques, d'opposition. Ils sont mal perçus, puisqu'illégitimes, et suspects. C'est-à-dire quelqu'un qui adhère à un parti politique qui n'est pas le monde des notables, il est quasiment suspect et presque dangereux. Et il avait lieu de faire attention, parce que, évidemment, on avait l'impression que tout le système policier était là derrière pour les surveiller. Nous avons des photos qui ont été prises par un représentant de alors je vais les confier à... Mais c'est exactement comme ça que ça se passait, n'est-ce pas, les réunions des formations de gauche très limitées étaient surveillées de très près par les policiers prenaient les numéros des voitures autour du local, etc.
C'était quand
vous... Oh, ça a duré longtemps, tout au long du gaullisme. Si vous... Alors, j'ai entendu d'autres choses qui m'ont fait réfléchir à cela en Alsace, à savoir que mais de milieux ruraux, hein, de gens que je connais bien, qui sont fiables et crédibles, qui me disent, mais tu fais partie des organisations de gauche, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont pas d'argent, tu n'as rien, tu n'as même pas de maison. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils n'ont rien. Donc autrement dit, les hommes politiques, les dirigeants devaient être des gens de la grande bourgeoisie, fortunés. Voilà. Donc ça me paraît déjà être quelque chose de très, très, peut-être pas totalement original, mais enfin très spécifique à la région. Alors, l'autre grand slogan des notables alsaciens qui a conduit longtemps à la freinage de la démocratie, du fonctionnement de la démocratie en Alsace, c'est cette idée que vous avez tous lu autrefois, les plus anciens, dans les journaux. Les Alsaciens sont unis. Naturellement, tous les Alsaciens sont unis. L'unité, c'était la vertu cardinale. Les dirigeants ont toujours eu le soin de diffuser cette idée de l'Alsace unie, notamment contre l'extérieur. L'extérieur étant considéré évidemment comme un ennemi. On ignore longtemps toute opposition, puisque la légitimité de l'opposition n'existe pas. Longtemps aussi, les journalistes dont on ne peut pas penser qu'ils n'aient pas été des démocrates, je cite par exemple l'ancien rédacteur politique des Dernières Nouvelles, devenu ensuite président de France 3 Alsace, Jean-Louis Engrich, un démocrate authentique, qui écrivait à longueur de journée dans les Dernières Nouvelles qu'il fallait que les hommes politiques de la région soient unis, c'est-à-dire contre l'extérieur. Il ne comprenait pas ou n'admettait pas la compétition à l'intérieur de l'Alsace pour le pouvoir politique, pour l'exercice du pouvoir politique. Alors, bon, il y avait quand même un clivage, oui, puisque notre ami est en train de l'évoquer. C'est le clivage entre les libéraux, qui sont devenus les gaullistes après, bien qu'il y a une contradiction entre gaullistes et libéraux, puisque les gaullistes ne se disaient pas libéraux, justement, au niveau national. Ça, c'est une des nombreuses originalités alsaciennes aussi, à savoir que les partis politiques français, avec leur adaptation régionale, ça peut changer du tout au tout. Donc, il y avait d'une part donc les libéraux, qui étaient en fait les protestants, on dit les campagnes protestantes, ou la bourgeoisie urbaine protestante, puissante à l'époque. Et ensuite, les catholiques, la deuxième tendance, qui sont devenus les centristes. Jusqu'à une certaine date, puisque maintenant, les centristes, évidemment, c'est autre chose. Et je vous rappelle que le clivage confessionnel d'autrefois s'est transformé. Vous avez d'une part les pratiquants des deux confessions contre les non-pratiquants des deux confessions. Et c'est pour ça que vous avez dans le centrisme des personnalités protestantes éminentes, comme Philippe Richer, par exemple, parce que précisément il se situe dans le camp protestant conservateur. Et vous avez toujours eu, du côté protestant, tous les hommes de gauche. Je rappelle quand même que toutes les institutions de gauche, syndicales, politiques, sont pour la plupart formées à l'école normale protestante de l'avenue de la Forêt-Noire, jusqu'à une date récente. Tout le monde connaît des Décop, il vient de là. Tout le monde connaît peut-être encore Claude Fritsch. Il vient de là aussi. Moi aussi d'ailleurs, je le signale en passant. Donc, pas de débat démocratique. Et ce qui est assez étonnant pour une région, c'est que les journalistes politiques des dernières nouvelles ou de l'Alsace, ils s'en prennent directement aux hommes politiques et leur enjoignent de se conduire dans l'unité. Même eux n'admettent pas là, le fonctionnement démocratique normal. Alors, il y a un autre aspect qui mérite réflexion et qui évidemment ouvre beaucoup de questions, c'est l'écriture de l'histoire d'Alsace. C'est la même chose. L'écriture de l'histoire d'Alsace a le même objectif, de montrer que le peuple alsacien a toujours été uni, devant l'adversité surtout. Alors le cas échéant, ceux qui écrivent l'histoire la falsifient allègrement, pour que ça corresponde à cette idée, et leurs interprétations travestissent les réalités, et ça traverse les décennies, jusqu'à une date récente aussi, jusqu'à ce que l'écriture de l'histoire est entrée aussi aux mains de certains d'une génération nouvelle, démocratique, issue de la population de base, quoi. Alors que très longtemps, les élites universitaires ou les historiens consacrés sur le plan alsacien, soit les universitaires, soit les historiens du dimanche, comme on les appelle quelquefois, ceux qui écrivent l'histoire par plaisir, c'était d'une part la grande bourgeoisie protestante. Lisez la liste des professeurs d'histoire de l'université de Strasbourg, encore en 1960. Vous avez Hart, Schlumberger, etc. Et d'un autre côté, parmi les historiens détenteurs des directions des archives des grandes villes ou municipalités, vous avez des prêtres catholiques, Aubernais, Célestin, Haguenau, et tout cela ont écrit l'histoire avec les archives qu'ils ont bien voulu consulter. Alors, ce qui est aussi déterminant, c'est l'ignorance des Français de l'intérieur, comme on dit, qui sont venus s'installer ici comme enseignants ou comme notables ou comme intellectuels. Alors, comme ils n'y connaissaient rien et qu'ils voulaient quand même prendre position, ils ont gobé tout ça. Ils ont accepté que c'est une originalité alsacienne, point, on laisse ça, c'est spécifique. Nous, on n'a pas le droit d'intervenir dans leur domaine, et c'est ainsi que personne ne contredisait ces vérités historiques. Alors, cette histoire aussi était écrite par des grands bourgeois, c'est-à-dire des proches des universitaires ou des universitaires, qui naturellement ont été la plupart du temps des bourgeois engagés francophiles. Et eux, naturellement, c'est l'Alsace unanimement patriotique. Pas de doute. Pas de discussion. Alors, c'est effectivement le grand thème, tout au long de la période que nous connaissons, c'est que les Alsaciens tous des patriotes français, avec quelques opposants des originaux qui étaient les autonomistes. Et les prêtres qui étaient un peu muselés sur ce plan-là, ils n'osaient pas trop écrire leurs convictions, sauf quelques-uns qui ont passé dans l'autonomisme, puisque beaucoup d'historiens ont intégré ce groupe des autonomistes dans l'entre-deux-guerres. Alors on peut, avec vous tout à l'heure, multiplier les exemples, je vais vous en donner encore quelques-uns de ces exemples, pour vous montrer je pense qu'on peut appeler la gravité de ce thème, de ce problème, pour la formation de la culture politique en Alsace. Par exemple, la Révolution française a été entièrement écrite par les prêtres dans les différents arrondissements ou villes, et naturellement concernés par le problème des menaces pour l'Église et de l'oppression de l'Église catholique, on a décidé une fois pour toutes que l'Alsace était entièrement opposée à cette révolution, qui n'est qu'une manœuvre anti-divine. Et on n'oublie pas, on oublie complètement qu'il y a eu beaucoup de révolutionnaires. Il y a eu des membres des assemblées qui ont été connus en France, et que, par exemple, certains bourgeois protestants ont appuyé cette révolution au début. Citons que tout ce qui gravitait autour du gymnase Jean Sturm à l'époque, hein, qui a appuyé toutes les réformes. Bon, le maire d'Ittrich est peut-être un mauvais exemple, puisqu'il a été guillotiné plus tard. Enfin, il a quand même un lien symbolique avec la Marseillaise. Autre problème qui est absolument une falsification de l'histoire, une imposture, c'est la fameuse protestation de 1874, où une protestation a été émise au Reichstag à Berlin contre l'annexion. La protestation existe, mais c'est en fait, dans la réalité, hormis les bourgeois protestants protestataires qui avaient fait alliance avec les prêtres catholiques protestataires aussi, c'est que ce n'était pas la même protestation. Si les bourgeois protestants protestaient effectivement contre l'annexion, les prêtres catholiques protestaient contre le Kulturkampf, c'est-à-dire cette fameuse bataille entreprise par Bismarck pour imposer l'autorité de l'État devant la puissance de l'Église catholique. Les prêtres catholiques aspiraient évidemment à se retrouver en France, où régnait à l'époque, après les élections de 71, l'ordre moral, c'est-à-dire ce qu'il y avait de plus traditionaliste, le pouvoir des légitimistes, qu'on appelait le pouvoir de l'ordre moral. Voilà ce à quoi aspiraient les prêtres catholiques. À l'exception de l'évêque Monseigneur Reiss, qui était en fait né en Alsace, mais a fait toute sa carrière, toute sa formation en Allemagne. C'est pour ça qu'il a en fait renoncé à la protestation très vite et il a été en somme marginalisé dans son évêché, on en a plus parlé. Alors donc là, c'est une véritable imposture. Il y en a plein d'autres, des impostures comme ça. On disait que en 1960, par là, on se rappelle que l'arrondissement du Luxembourg a passé pour être l'arrondissement le plus patriotique de France, puisqu'il avait voté quasi unanimement pour De Gaulle. Et effectivement, c'était l'arrondissement de France le plus gaulliste. Alors, patriotisme ou quoi? Les mentalités au niveau politique ne changent pas comme ça rapidement. Quand on regarde les élections autour de 1900, le même canton a élu le fils du gouverneur allemand d'Alsace-Moselle, du Reichsland. C'est-à-dire qui peut être le plus germaniste possible. C'est-à-dire l'adhésion la plus manifeste à l'Allemagne. Alors, on est facilement patriotique, mais dans un autre sens. Le fait est qu'en réalité, ce type de vote, ce sont des votes en faveur d'une personnalité autoritaire. Ce qu'on passe, qu'on fait passer pour patriotique, c'est en fait l'autoritarisme. Donc, je pourrais citer un exemple encore un peu plus ambigu. En 1956, il y avait Mendès France qui était la grande vedette médiatisée, et dans l'arrondissement de Saverne, il avait eu un succès considérable. Je ne sais plus quel est le taux de ses voix, enfin, c'était exceptionnel. Au même moment où, deux ans après, De Gaulle a battu tous les records aussi, et le député a été sans cesse gaulliste. Même chose, c'est pas... mais tout ça, ça passe à l'as. Et vous savez tout ce qu'on a écrit sur le vote du Front National, dans cette Alsace du Nord, où on dit oui, ils étaient pro-nazis, et donc maintenant ils votent le Front National. Mais alors expliquez-moi pourquoi en 1956 les mêmes ont voté Mendès. Ça veut dire simplement que ce Front National n'est pas D'abord, il n'est pas patriotique, puisqu'un, quand même à l'intérieur de la France, c'est patriotisme, c'est le nationalisme. Ce n'est certainement pas ça dans un environnement plutôt germanophile et plutôt favorable à l'autorité, simplement. Donc voilà un certain nombre d'exemples, je pourrais les multiplier. Léon Strauss parlera tout à l'heure de l'antisémitisme à un autre, mais comme ce n'est pas sa période, je pourrais vous dire juste un mot. Vous n'avez jamais lu dans des ouvrages régionaux écrits par les curés ou autres qu'entre 1880 et 1900, l'Alsace a été secouée par le plus grand mouvement antisémite qui ait existé alors en Europe.
De quand à quand ?
Entre 1880 à peu près jusqu'en 1900. Il y a eu des manuels qui analysaient la manière de comprendre les activités des juifs. Et il y avait des dictionnaires de méthodes d'action des juifs pour acheter et vendre. Vous savez, je faisais le trafic des bestiaux et des grains, etc. En langue allemande, évidemment. Et bon, d'abord, on n'appelait pas les juifs, on les appelait les usuriers. Enfin, bon, bref. Vous avez des choses absolument extraordinaires. Et il faut savoir que lorsqu'on vous fait l'histoire du Crédit Mutuel, tellement extraordinaire, n'est-ce pas, comme réalisation, c'est tout simplement une réaction antisémite. L'Église catholique a pris ça en main, suivi ensuite par les notables protestants, mais plus tardivement, pour empêcher l'activité des juifs dans les campagnes. Donc le Crédit Mutuel, c'est une véritable réalisation dirigée contre les activités, parce que ce n'était pas contre les juifs en tant que tels, mais en tant que ayant détenu une activité.
Précisé, usurière. Activité usurière.
Oui.
C'est dans les histoires même officielles.
Oui.
Par exemple,
oui.
Ça a commencé en Allemagne, c'est pas pour rien. Hein.
Oui, mais bon, c'est pas typiquement alsacien, bien sûr. Voilà. Bon, mais l'activité usurière, vous savez, ça c'est déjà un terme polémique. Je ne voudrais pas continuer, mais il faisait du commerce, point. Alors, où est l'usure dans une activité commerciale dont, quand on a, pour ainsi dire, le monopole? Donc, sur ce plan-là, mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait évoquer si vous voulez qu'on en évoque plus tard, mais je crois qu'il est l'heure pour moi de laisser la parole à Léon Strauss.